C'est parti. Bah, salut Stéphane, merci d'être ici sur Cours Central. Donc, c'est super sympa de m'accorder tout ce temps. On va parler évidemment tennis tous les deux. On va parler de ta passion du tennis parce que tu fais plein de choses dans le tennis et c'est tout simplement passionnant. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Bonjour Pierre, donc je m'appelle Stéphane Attard, je suis dans ma 50e année, je suis moniteur de tennis et j'ai fait plusieurs choses en club et hors club. Voilà.
D'accord. Tu as travaillé
Donc,
pour des équipementiers un petit peu, tu...
alors, moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que je viens du monde de l'entreprise,
D'accord.
c'est-à-dire qu'avant d'être moniteur de tennis, j'ai travaillé pour la marque Fila de sport. J'ai vendu de la publicité. J'ai vendu des voitures en concession automobile pour la marque Volvo. Donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc.
Super, super.
On va dire. Et j'ai la particularité d'avoir passé le monitorat en VAE, donc ce qui s'appelle la validation d'acquis des... que je n'ai été que 15-2. Et alors maintenant, on peut passer son monitorat à
Oui, maintenant,
15-2, mais à
effectivement,
mon
on peut, ouais.
époque, on ne pouvait pas, c'était à partir de 15. Donc, j'ai passé donc mon monitorat en VAE et j'ai aussi passé le tronc commun, puisqu'à l'époque, il fallait passer le tronc commun.
D'accord, super,
Bon,
super.
voilà.
Et du coup, comment t'es venue ta passion pour le tennis?
Alors, ma passion pour le tennis a été venue parce que j'ai rencontré un prof de tennis qui s'appelle François Leithet, qui n'est plus prof de tennis. Dommage pour le tennis. Mais voilà. Et donc ça a tout de suite accroché et j'ai adoré le tennis. Et c'est lui aussi qui m'a donné envie d'être moniteur de tennis.
D'accord.
Voilà. Alors moi, j'ai commencé le tennis très tard, enfin très tard. J'ai commencé le tennis à 14 ans. Alors qu'il y a des enfants maintenant qui commencent à 3-4 ans
Très
sur
jeune,
du
en
baby
général.
tennis. Et donc moi, j'ai commencé le tennis à 14 ans avec François. Il m'a vraiment donné envie de jouer au tennis et d'être moniteur. Voilà.
Super, super. Et du coup, quand tu étais petit, tu t'intéressais au tennis avant d'y avoir joué ou
Pas
pas
du tout.
trop? Pas du tout, ouais.
Pas du tout.
D'accord.
Bah, le contexte, c'est que c'est un été, j'ai 14 ans, j'ai plus l'âge de jouer au cow-boy et aux Indiens, j'ai pas encore l'âge d'aller draguer les filles et je tourne un peu en rond. Et ma mère me dit, tiens, il y a un club de tennis, on va voir s'il y a un prof et s'il peut te filer des cours. Alors, s'il y avait eu un club de golf, peut-être que j'aurais fait du golf. Voilà, je ne peux pas te dire.
Ouais,
Mais en revanche, voilà, François m'a vraiment donné l'envie de continuer le tennis. Il m'a fait rencontrer mon meilleur ami à cette période-là, qui s'appelle Laurent. Bah, si vous voyez la vidéo, je l'embrasse. Voilà, et c'est un mec qui a formé énormément de jeunes et. Peut-être pas formé des champions de tennis, mais en revanche, il a formé que des mecs qui continuent le tennis.
D'accord.
Et moi, je considère que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que tu enseignes le tennis, mais tu as donné l'envie aux gamins, à l'adolescent ou à l'adulte de continuer.
Ouais,
Et
complètement.
c'est sur la durée. Parce
C'est
que
vrai.
c'est clair que maintenant, il y a de plus en plus d'activités et tu vois que les gamins peuvent zapper très très rapidement, qu'ils font une année du tennis, une année du judo, ensuite ils vont faire de la piscine. Et voilà, être un bon moniteur tennis, c'est aussi fidéliser les gamins.
Complètement, complètement.
Voilà. Après, fidéliser, ça ne veut peut-être pas dire former.
Ouais, ça veut
Parce
dire
que.
les passionnés par le jeu, par tout ce qu'il y a autour du tennis, vraiment pas que ce soit une
Mais
passion
tu
pour
as
eux, quoi. Qui...
des profs de tennis qui vont fidéliser les gosses, peut-être en faisant très peu de tennis, parce qu'ils vont faire des échauffements avec des parties de foot et ça devait durer 10 minutes, ça va durer une demi-heure. Mais les gamins sont contents et puis ils s'éclatent. Donc, tout le débat est. Est-ce que tu fidélises les gosses et peu importe comment? Alors le plus dur, c'est de fidéliser les gamins et en plus, c'est leur donner l'envie de progresser, c'est leur donner l'envie de s'inscrire à des tournois parce que je considère qu'à partir du moment où un enfant se met à la compétition et peu importe le niveau qu'il aura, il continuera le tennis parce que parce qu'il aura goûté à gagner des matchs ou à perdre des matchs. L'enseignant est là pour l'accompagner sur ce chemin de victoire ou la bande de défaite. Et pour moi, c'est important, voilà, que le gamin fasse de la compétition, parce que ça donne un but.
C'est vrai.
C'est comme si demain, tu dis à un gamin, du CP jusqu'en terminale, tu vas prendre des cours, mais tu passes pas le bac.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait un objectif. Ça fait un palier à
C'est
franchir, un
ouais,
challenge.
et puis t'as beaucoup de gamins qui sans être de très grands joueurs, mais de bons joueurs de club ou alors des joueurs honorables de club, qui vont comprendre des trucs à travers la compétition. C'est-à-dire qu'ils ne le comprenaient pas à l'entraînement parce qu'il n'y avait pas d'incidence, alors qu'en compétition, ben, l'incidence, c'est la victoire ou alors la défaite. Voilà. Après, ce n'est pas parce que tu entraînes bien que tu vas gagner. Voilà.
C'est
Je crois que c'est
ça.
Philippe Lucas disait si tu t'entraînes, tu vas peut-être gagner, mais si tu ne t'entraînes pas, tu es sûr de ne pas gagner. Voilà, donc il faut s'entraîner et après accompagner l'enfant sur ses victoires, sur ses défaites. Et c'est pour ça que j'ai créé, on en avait parlé avant avec Mickaël, que tu connais bien.
Okay.
Et que j'embrasse aussi
Je l'embrasse également.
une association Twinner Tennis. Et nous, on part avec des gamins dans le sud-ouest. Et la première année, on avait des gamins qui ne faisaient pas de compète parce qu'on ne pouvait pas démarcher dans nos clubs, c'était compliqué, ça nous mettait en porte-à-faux vis-à-vis des présidents. Et ça, je l'entends parfaitement. Donc, on a fait un peu de bouche à oreille. Et on a eu des gamins qui sortaient que de l'école de tennis, c'est-à-dire qui étaient en capacité de jouer sur un grand terrain avec des balles dures. Après, techniquement, c'était un peu au secours, quoi. Mais tu te rends compte que parce qu'on les a guidés, parce qu'on les a accompagnés, parce qu'on a su créer des liens forts dans le groupe, les gamins, ils ont gagné un match, deux matchs, trois matchs. Et la première année, alors, enfin, il y avait beaucoup de non classés, hein. On s'est retrouvés à 75 ou 80% de victoire.
C'est top, hein.
Oui, après, personne ne s'occupait de ses gosses. Voilà, ils se débrouillaient en école de tennis, mais ils n'étaient pas suffisamment forts pour intégrer un centre de compétition. Alors, il y en a deux, c'était assez rigolo. En juin, ils n'avaient pas le niveau pour rentrer au centre de compète. Une fois qu'ils avaient fait la tournée, parce qu'ils avaient passé plusieurs tours, en septembre, enfin fin septembre, début octobre, ils sont arrivés avec leur nouveau classement et ils n'étaient pas intégrés, puisque souvent ça se fait en fin juin, début septembre. Et là, on s'est rendu compte que le classement leur permettait de rentrer au centre de compète. Et donc,
Puis en
ouais, mais
plus,
c'est-à-dire que.
ils ont connu une ambiance positive, ils se sont tous motivés, enfin, ça a créé un truc tout de suite, quoi. Ça...
Alors, j'ai aussi créé Twinner Tennis avec Mika parce qu'on avait envie de mettre nos croyances en pratique et pas dessus une politique sportive. Alors, je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, hein, mais essayer d'être autonome et de dire est-ce que nos croyances, ça marche ou pas? Alors, ça marche sur certains gosses. Alors, la première année, on a vu 9 gamins et les 9 gamins sont réinscrits la deuxième année. Ils ont parlé à leurs cousins, à leurs copains et on s'est retrouvés avec 24 gamins. Donc,
Ah bah c'est le système, c'est super.
donc la première année, on n'a pas pu se payer. Et la deuxième année, on a pu se payer. Et en plus, on a pu aller dans une belle maison avec une piscine. Donc, les gamins étaient comme des dingues. C'était à la fois une tournée de tournoi, mais à la fin, ça leur permettait aussi d'être en vacances.
Ouais, c'est ça, de passer du bon temps entre potes, complètement.
Mais avec une notion de résultat, avec une notion de voilà.
Avec un cadre. Ouais.
Avec un cadre, ouais.
Et
Mais
justement, du
une fois que
coup,
tu expliques.
ouais,
Excuse-moi.
vas-y. Non, dis-moi.
Non, non. Vas-y, vas-y, vas-y.
Non, du coup, je voulais te demander quelle était ta notion justement d'entraîneur finalement, puisque tu as découvert ce métier, tu as lancé Twinner, etc. Toi, c'est quoi ton rapport par rapport à ça, par rapport à l'apprentissage
Alors, C'est compliqué parce que là, tu vois, je bosse dans deux clubs. Je bosse à Azur, Tennis Club d'Asnières,
Ouais.
donc au nord du 92. Je bosse pour Puteaux. Donc, à Azur, je m'occupe du baby tennis et de l'école de tennis. Et à Puteaux, je m'occupe de l'école de tennis et je fais un peu de compète.
D'accord.
Donc, ça veut dire que je suis pas référent dans aucun club. C'est-à-dire que les gamins, je les ai une heure par semaine.
D'accord.
Donc, une heure par semaine, ça veut dire que le gamin, tu vas l'avoir 30 semaines. 30 semaines, une heure, c'est-à-dire que tu vas l'avoir 30 heures sur une année. Une semaine de travail, ça ne fait pas 30 heures, ça fait beaucoup plus. Donc, c'est juste pour que les gens comprennent, quand par exemple, tu as des parents qui disent, mon fils a fait un an de tennis. Oui, mais il a joué combien d'heures par semaine? C'est-à-dire que si le gamin il joue 4 heures par semaine, ou alors si le gamin il joue une heure par semaine, oui, ils ont joué un an au tennis, mais il y en a un qui a 4 fois plus d'expérience que l'autre.
Ah,
Donc,
c'est sûr.
pour moi, si moi je réfléchis un peu comme les pilotes d'avion quand ils disent bah, le pilote, il a eu tant d'heures de vol. Bah, pour moi, c'est exactement ça. C'est combien d'heures tu t'es entraîné. Donc, les avoués. Alors, avant, j'étais directeur sportif d'un club à Colombes. Et le rapport était différent parce que quand tu as des gamins au centre de compète, que tu les as 2, 3 fois par semaine, tu as des liens beaucoup plus forts que quand tu as un gamin une heure par semaine.
Complètement.
Et le gamin, il va apprendre à te connaître beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire qu'il va adhérer ou pas adhérer, mais c'est à toi aussi de le mettre dans une prédisposition où il adhère à tes entraînements, parce que tous les entraîneurs ont des méthodes différentes, parce qu'ils ont des croyances différentes, parce qu'ils ont un parcours différent, parce qu'ils ont une éducation différente. Donc tu as plein d'entraîneurs et tu as plein de profils. Il y a un mec extraordinaire qui s'appelle Hugues de Castilla, qui bosse maintenant à la Fédération française de tennis, qui était CTR de. Alors, avant, on disait Ligue des Hauts-de-Seine, alors maintenant, ça s'appelle Comité. Et lors d'une réunion, il nous a dit, voilà, vous êtes 20 dans la salle, je vous donne une problématique, je vais avoir 20 solutions. Et il n'y en a pas une qui sera bonne par rapport aux autres. Vous avez chacun votre méthode voilà, et vous avez vos croyances. Donc tu n'as pas une bonne méthode.
Ouais, c'est
T'en as
ça,
plein.
complètement.
Après, c'est à quoi tu crois et est-ce que tu le mets en place? À partir du moment où tu crois en certaines choses et où tu vas tout faire pour le mettre en place, bah, tu pourras aussi défendre ta pédagogie si demain on te dit mais pourquoi tu fais ça? Ou alors des parents qui te disent mais moi je ne comprends pas pourquoi vous faites ça et donc tu es capable d'expliquer, d'argumenter parce que c'est tes croyances, parce que c'est ton expérience et parce que tu sais que si tu demandes à l'enfant de faire ça, bah à un moment donné, il va y arriver et que après, tu n'as pas qu'une méthode. Encore une fois, hein. Tu vois, je travaille avec Mika, on a beaucoup de points communs, mais des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Parce qu'il y a son vécu, parce que j'ai mon vécu. Voilà. Et après, c'est entre nous d'être suffisamment intelligents pour mettre de l'eau dans notre vin et dire OK, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour. Voilà.
C'est ça, ouais. Et toi, du coup, justement, c'est quoi ta méthode d'entraînement? Je veux dire, tu vas prendre un jeune qui découvre le tennis. Le jeune va être motivé, tu vas le sentir impliqué. Et
Ouais.
comment justement tu vas le former? Parce que évidemment, il y a des méthodes un peu plus câlin, entre guillemets, des méthodes un peu plus dans le dur, entre guillemets. Toi, c'est quoi en fait?
Alors, moi, tu vois, j'interviens. Je suis pas responsable du baby tennis à Azur, mais c'est moi qui l'ai créé. Et au départ, je connaissais rien au baby tennis. C'est les 3-4 ans, tu te dis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? C'est extrêmement compliqué. Et j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un mec qui s'appelle Julien Négrier, qui est directeur sportif du Tennis Club de Sedan. Et ce mec-là avait inventé une méthode. Alors, avait, je ne sais pas si on doit parler au passé ou au présent, et tu vas comprendre pourquoi. Donc, avec des ballons de kiné, avec avec des boudins pour que les gamins puissent faire des échanges, parce que si tu loupes le ballon de kiné, c'est-à-dire que le gamin, c'est quand même compliqué, tu vois. Et donc, il y avait plein de jeux. Et par contre, c'est clair que la première année où j'ai équipé le club en matériel de baby tennis, on en a eu pour 1500 euros. Tous les clubs ne peuvent pas mettre 1500 euros dans le matériel de baby tennis.
Complètement, ouais, complètement.
Et à la base, la Fédération française de tennis avait mis sur leur site l'achat du matériel dont tu avais besoin pour le baby tennis. Et après, c'est clair que ils l'ont retiré parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait cher, quoi.
Ouais, complètement.
Alors,
Plein de clubs utilisent forcément le budget, ouais, ça.
après, moi, je ne suis pas à la fédé, mais ils auraient pu très bien dire on va accompagner les clubs, on va leur faire crédit, ils vont payer 1 500 euros sur 3 ans, on va offrir, s'ils prennent un package de 1 500 euros, ben nous, on va mettre au bout 300 euros, je ne sais pas. Mais moi, je trouve la méthode pas mal. Donc, pour revenir au fait que si j'entraîne un gamin de 3-4 ans, ou alors si j'entraîne un gamin de 17 ans qui est en école de tennis, ou si j'entraîne un gamin de 17 ans qui est en compétition, je ne vais pas leur parler de la même manière.
C'est sûr.
C'est-à-dire qu'on a un métier, tu es quand même face à l'humain et tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter à l'âge, tu dois t'adapter au sexe, tu dois t'adapter à la motivation parce que tu as plein de gamins qui sont motivés et tu en as qui ne sont pas motivés.
C'est ça.
Et donc tu dois essayer de les motiver, mais il y a une expression qui dit tu peux emmener le cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer à boire.
Ouais,
Alors
complètement.
nous, on doit quand même essayer de donner du plaisir au gamin, puisque c'est ça qui va faire que le gamin va rester dans l'activité ou pas, quoi. Voilà. Et ça, avec l'âge, tu vois, parce que ça fait pas mal de temps que j'enseigne maintenant, c'est d'expliquer pourquoi tu fais ça aux gosses qui sont capables de l'entendre. C'est-à-dire qu'à partir de 9-10 ans, le gamin, tu lui dis, voilà, il faut que tu fasses ça parce que ça va te permettre de faire ça, ça. Et à partir du moment où tu expliques ta démarche, tu vois, cette année, parce que j'aime bien essayer de me trouver des sortes de petits défis pour pas retourner en rond sur le terrain, je vais mettre l'accent sur le service. Parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont niveau vert, donc qui sont en théorie capables de jouer sur grand terrain, balle intermédiaire ou sur grand terrain, balle dure. Et en coup droit, c'est plutôt correct. En revers, c'est plutôt correct. À la volée, c'est un peu compliqué. Alors, au service, c'est extrêmement compliqué. Et tu te dis, voilà, le gamin a fait terrain blanc, terrain violet, terrain rouge, terrain orange, terrain vert. Donc, il a fait 5 niveaux. Alors, il n'a peut-être pas fait ça en 5 ans, il a peut-être fait ça en 6-7 ans. Et tu dis, techniquement, au service, il passe sous la balle, c'est en service plateau, ils ont une prise de coup droit. Et donc, moi, j'ai dit à mes élèves, cette année, ça va être chez les Chinois, il y a du chien, du cochon, du rat. Bah, nous, ça va être l'année du service. Et donc, je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai dit, c'est le seul coût qui ne dépend que de vous. Si vous le maîtrisez bien, c'est un coût qui peut vous rapporter des points ou qui peut vous permettre de rentrer dans l'échange beaucoup plus facilement et de ne pas vous faire agresser, quoi. Et une fois que tu argumentes, une fois que tu expliques, alors tous les gamins n'adhèrent pas parce que c'est clair qu'au départ, quand tu vas changer la prise, que tu vas changer le plan de frappe, que tu vas leur demander ceci, cela, bah, tu vas avoir beaucoup de réticence. Mais tu en as qui commençaient parce qu'avec le Covid, c'est très très compliqué d'entraîner. Et c'est bête parce qu'il y en a qui commençaient, tu vois, à sentir des trucs et tu avais des choses qui se mettaient en place. Alors, c'était pas non plus des gros gros serveurs, mais ça commençait à être plutôt bien. Voilà.
Puis le service, faut faire des gammes, hein. Faut en faire tout le temps. Enfin, faut si tu
Alors,
essaies de servir pendant 2 mois, après c'est chaud, quoi. Faut le travailler forcément, quoi, pour que ça rentre.
oui, après quand tu es en école de tennis, tu le travailles, mais c'est aussi sur le côté, tu dois déjà les mettre en situation de jeu pour qu'ils comprennent que s'ils se ramassent un scud en retour, bah, c'est-à-dire que même si la balle était dans le carré, il y a eu un problème. Il y a eu un problème parce qu'ils ont joué sur le coup fort du mec et pas sur le coup faible, parce qu'ils ont peut-être frappé tout doucement. Voilà, donc le fait de mettre le cercle dans son contexte de jeu, ça permet à l'enfant de mieux comprendre l'intérêt de bien servir.
Complètement, ouais, complètement.
Voilà.
Et du coup, tu entraînes des gens de tous les niveaux, j'imagine. Du débutant au...
Alors, je fais plus que de la compète à Puteaux. Donc, baby tennis, ben, ils ne sont pas encore classés. Hein. 3-4 ans, c'est un peu compliqué. Après, voilà, parce que j'ai une mauvaise expérience dans mon club de Colombes, j'ai décidé d'être dans plusieurs entités. Donc je fais plutôt de l'école de tennis. Après, sur les cours co-adultes, j'ai soit des débutants, j'ai un groupe, c'est que des mecs qui ont été ex-seconde série, qui maintenant sont pères de famille, ouais, ils ont 40 ans et ils ont envie de s'éclater entre eux. Donc voilà, après, il ne faut pas oublier, hein, en France, tu as 80-90% des gamins, c'est de l'école de tennis. Hein.
Ben c'est ça, complètement.
Tu
Hein.
as 20-10%. Voilà, enfin, toi, tu es au club de carrière, tu es un passionné de tennis, tu es dans ton club, tu as quand même plus de gamins en école de tennis que voilà, qu'au centre de compète.
Et tout à fait, ouais, c'est sûr, c'est
Donc,
sûr.
oui, tout le monde a envie de faire de la compète. Mais la réalité du métier, c'est que tu vas plus faire de l'école de tennis, des cours co-adultes que de la compète.
Ah oui,
Après,
donc maintenant.
voilà, après c'est aussi important de se dire, si je fais de l'école de tennis, il va aussi falloir que je les amène à la compète. Pour moi, voilà. Après, c'est vrai que dans les gros clubs où tu as beaucoup de gamins, ben, un gamin qui reste en école de tennis, ben, il risque de rester en école de tennis. Mais quand tu vas dans les clubs en province où tu as des petites structures, où tu as une école de tennis de 100 gamins, de 200 gamins, ben, le prof, si demain il veut aligner des équipes, il va être obligé de tout faire pour former les gamins, pour qu'ils puissent être autonomes sur un grand terrain et qu'ils puissent ben, se débrouiller, quoi. Parce que sinon, il ne
Complètement.
pourra pas aligner mon équipe. Et donc, il n'y aura pas une visibilité pour le club, quoi. Et donc, c'est pour ça, être moniteur de tennis, tu as tellement de profils à l'heure actuelle. Tu vois, moi, tu as quand même t'as des mecs qui sont directeurs sportifs, qui font presque plus de terrain, voire pas de terrain, alors qu'ils sont moniteurs de tennis. Et tu as d'autres mecs qui sont moniteurs de tennis, c'est parce que ils sont dans un club où il y a peu de membres et donc bah, tu n'as pas de directeur sportif, il est seul ou alors ils sont deux, bah, ils font du terrain. Alors, ils font bien sûr l'administratif parce que ça, c'est de plus en plus inné au métier, mais ils font énormément de terrain. Donc, tu as plein de profils.
Ouais, complètement, ouais.
Alors,
Complètement.
ça dépend de la situation géographique, ça dépend de la situation financière du club, voilà.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, justement, toi, c'est quoi ton regard, ton avis sur notre approche du tennis en France, du côté des clubs, mais aussi du côté de ce que la Fédé peut apporter avec les clubs, tu vois? Parce que forcément, ça diffère de certains clubs, la politique sportive. Tu vas avoir des mecs qui sont vachement engagés, qui ont des propositions, mais.
Ta question, était bien placée pour le savoir. Elle est compliquée parce que la Fédé, on a un nouveau président.
C'est ça.
Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il veut remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire le club. J'ai cru comprendre qu'il voulait ne plus faire de la sélection, mais de la formation. Donc, qu'est-ce qu'il va insuffler? Qu'est-ce qu'il va demander au club? Et encore une fois, je t'ai dit, tu es en province, tu as une petite école de tennis, tu veux que ton club soit représenté au sein des matchs par équipe jeune, bah, tu vas tout faire pour sortir une équipe, et donc tu vas devoir former en école de tennis. Si tu es dans un gros club, parce que tu as beaucoup de membres par terrain, machin, bah, ton école de tennis, ça, c'est pas que tu ne vas pas former, mais tu vas plus te concentrer sur le centre de compète, et parce que tu as un vivier qui va te permettre de te dire toujours, tu auras un gamin qui va sortir du lot, tu auras un gamin qui va plus jouer avec son père, sa mère le week-end. Voilà, je pense que le volume de jeu est extrêmement important. Donc, tu as des clubs qui te permettent aux gamins de jouer toute l'année, tous les jours. Tu as des clubs où tu payes une cotise pour ton gosse, bah, il va pouvoir jouer que sur son créneau horaire d'école de tennis. Et sinon, ça sera extrêmement compliqué. Donc voilà, tu n'as pas qu'un club. Et en France, tu as quand même plus de petits clubs que de gros clubs.
Ah, mais complètement, ça c'est clair. C'est clair.
Donc voilà, après, je pense qu'on était à un moment donné une référence au sein de la formation. Maintenant, maintenant, c'est un peu compliqué parce que tu te dis, on arrive sur une génération qui vieillit un peu avec les Gasquet, les Tsonga, voilà, moi, les mon fils. Et la génération derrière, voilà, j'ai entendu le discours de Gilles Moreton qui disait, je suis élu à la Fédé, mais je vais pas tout révolutionner du jour au lendemain.
Ça va prendre du temps, c'est sûr. Ouais.
Ça va prendre du temps, voilà. Donc, je pense qu'il faut être patient. Je pense que c'est l'homme de la situation. Parce qu'il a été joueur, parce qu'il a été moniteur de tennis, parce qu'il a été entrepreneur, parce qu'il a été directeur d'un plus gros tournoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tournoi de Lyon, à l'époque, il a été avant Bercy, que c'était un des plus gros tournois, que McEnroe l'a gagné, Noah l'a gagné. Donc c'est vraiment un gros tournoi. Donc il a une expérience importante et surtout très large.
C'est ça, c'est ça.
C'est-à-dire que si demain il rencontre le directeur d'un tournoi. Le tournoi d'Orléans, parce que je connais très bien le directeur Didier, qui est un ami, donc ben, je passe aussi le bonjour. Ou si demain il est confronté à un souci sur Roland-Garros, il saura y répondre.
Ouais, c'est ça.
Voilà, parce qu'il y a une expérience qui est hors norme.
C'est ça, il a tellement ouais, comme tu dis, il a la vision du terrain, il connaît parfaitement la FFT, son fonctionnement, mais il a aussi une vision d'entreprise, puisqu'il a géré des grosses boîtes, donc forcément, ça fait de lui une grosse légitimité.
Je veux pas lui mettre la pression, mais j'espère que c'est le futur Philippe Chatrier. Non, mais parce que après Philippe Chatrier, ça a été un peu compliqué quand même.
Ah ouais, puis Philippe Chatrier, il a tellement apporté au tennis français, c'est incroyable.
Voilà, je pense qu'il a le potentiel.
Complètement, ouais,
Voilà,
complètement.
après l'avenir, tu vois, on nous le dira.
C'est ça, complètement, ouais, complètement.
Voilà.
Toi, est-ce que t'aurais pu être tenté par entraîner des joueurs, des joueuses de haut niveau, tu vois, de suivre comme ça des très bons juniors sur la durée, c'est quelque chose qui aurait pu t'intéresser?
Si je te dis non, c'est ridicule. Voilà, parce que tout le monde te dit, ouais, enfin, tous les profs de tennis veulent faire de la compète et tous les profs de tennis veulent faire du haut niveau. Après, au vu de mon parcours personnel et professionnel, ça aurait été impossible. Ou alors un concours de circonstances, voilà. Mais oui, j'aurais été tenté. Après, je pense que j'ai. Je n'avais pas les compétences. Je les ai toujours pas. Hein. Je les ai toujours pas. Et puis je pense que c'est extrêmement dur parce qu'on voit un côté de la médaille et pas l'autre. C'est-à-dire, il faut que tu sois tout le temps avec ton joueur. Tu n'es jamais chez toi. T'as une pression continuelle. Tu es payé par un mec qui est ton patron, mais sur qui tu dois taper, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le joueur qui te paye, mais tu dois lui dire, tu vas te coucher à telle heure. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Imagine demain, tu es entraîneur de Marat Safin. Alors, il ne joue plus. Ou
Ouais, c'est
alors Kyrgios. Tu vois, ou alors Kyrgios, ou voilà. Federer, facile. Nadal, facile. Djoko, facile. Kyrgios, plus dur. Tu vois, donc c'est. Je sais pas si tu te rappelles de Nicolas Coutelot.
ouais.
Qui avait fait un excellent Roland-Garros. Et donc, moi, je me balade dans les allées de Roland-Garros et je croise un. J'avais travaillé au CAM, qui est le cercle athlétique de Montrouge. J'avais travaillé sur la saison 2000-2001. Et un mec qui donnait des cours, je le vois avec une carte Roland-Garros. Il se prénommait Pierre-Jean. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Pierre-Jean, il me dit, bah, moi, je suis le coach de Coutelot. Et je regarde, je vois coach de Nicolas Coutelot. Je lui dis, tu fous de ma gueule, c'est quoi? Non, je suis avec lui depuis 2 mois. Et donc, on parle, bref, voilà. Et après, je croise par les hasards des allées un autre pote qui était aussi prof au CAM, Hervé Boulche, qui est un excellent prof et à qui je passe aussi le bonjour. Et je lui dis, mais Pierre-Jean était coach de Coutelot. Il me dit, oui. Je lui dis, mais comment? Il m'a dit, ils sont potes et ils sont exactement dans le même trip. Et ça match, quoi. Il va peut-être pas l'entraîner comme un entraîneur, entre guillemets, normal, mais parce qu'il est à l'aise, parce qu'il a un relationnel fort, et ben, regarde ce qu'il est en train de faire à Roland-Garros, regarde ce qu'il a fait avant Roland-Garros. Voilà,
C'est
le...
ça. C'est un
Et
feeling,
je pense
quoi.
que
C'est un match. Ça match.
exactement. Exactement, je pense que coach joueur, c'est extrêmement c'est compliqué de trouver le bon lien, mais une fois que tu as le bon lien, je pense que c'est top, tu vois. Tu prends Federer qui est toujours avec le même entraîneur suisse. Après, oui, il a eu des gens qui ont travaillé avec lui, mais cet entraîneur suisse, j'ai
C'est
oublié
vrai,
son nom.
Lucie.
Voilà, ben il a été toujours avec lui. Tu
Oui,
vois, donc là, il est avec le Bicic, mais voilà, le...
le socle fort, on va dire. Puis depuis toujours, il a le
Tu
même
vois,
entraîneur physique aussi, Pierre Paganini. Enfin, ouais, il a une structure solide, quoi.
Voilà. Et c'est clair que c'est une fois que tu as la bonne personne, je pense que c'est compliqué à chercher ailleurs, voilà.
Complètement, ouais. Complètement,
Et puis, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs puisque tu as la bonne personne.
ouais. Bah oui,
Donc, tu
puisque
ne vas
tu es
pas aller voir.
satisfait par le travail, tu as un bon feeling, aucun intérêt. Mais d'ailleurs, justement, il y a une. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une nouvelle mode, mais dans le tennis féminin, par un moment, tu vois très souvent des changements d'entraîneur. Mais vraiment, tu vois, au haut niveau, tac, tu as deux, trois mauvais résultats, paf, je change, je change. Ça, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein, c'est la joueuse qui décide. Mais effectivement, pour créer un projet, parce que maintenant, on est vachement dans la culture du résultat instantané finalement. Et construire un projet, ça prend aussi du temps. Tu passes par des échecs aussi. Et justement, le pari aussi finalement, de l'équilibre, entre guillemets, de créer un truc, de se laisser une chance, entre guillemets, c'est bien aussi, quoi.
Après, c'est aussi le vécu de la joueuse.
C'est ça, c'est ça.
C'est-à-dire, si elle a ses objectifs à long terme, enfin, là, tu vois que le tennis féminin, tu as un grand chelem, tu as une nouvelle tête.
Ah, c'est sûr que.
C'est-à-dire que. Tu as eu Billie Jean King, tu as eu Chris Evert, Navratilova, tu as eu Steffi Graf avec Sabatini, tu as eu Lester Williams, c'est là,
Ah
c'est.
ouais.
Là, c'est. C'est
Ah là, t'as peut-être Naomi Osaka qui va peut-être reprendre le flambeau.
voilà.
Mais le temps
Après.
qui convient, c'est toujours pareil.
Pardon?
C'est le temps qui parlera.
Oui, voilà. François Mitterrand disait il faut donner le temps au temps. Voilà.
C'est ça. Alors,
Oui, il a fait 14 ans. Donc,
j'arrive tout de
tu vois,
suite, hein.
il.
J'ai juste allumé la lumière.
Vas-y, vas-y.
Mais ouais, effectivement, ouais, comme tu dis, faut donner du temps au temps, quoi.
Mais c'est clair que quand tu es sur le circuit pro, c'est extrêmement compliqué.
Tout va
Tu
trop.
vois, tu vois, quand Federer se blesse au genou, qu'il est obligé d'être arrêté, qu'il est opéré, il revient pour l'Open d'Australie, il a eu 6 mois d'arrêt, personne n'aurait misé un copec sur le fait qu'il gagne l'Open d'Australie. Mais
Ouais, mais parce
peut-être que
que
cette Open
Roger, il connaît parfaitement son corps, il est parfaitement suivi. C'est une force, enfin, c'est dire, dans ses choix de carrière, de tournoi, il a toujours fait gaffe justement à sa préparation à être au top. Et alors, effectivement, il s'est blessé, mais c'est vrai que pour le coup, revenir et gagner l'Open d'Australie, c'est juste énorme.
Mais t'as aussi le côté, ça lui a donné 6 mois pour travailler son revers.
C'est ça.
Est-ce qu'il aurait eu les moyens d'acquérir ce revers en étant sur le circuit?
Parce que oui, effectivement, t'as pas le temps.
Après c'est que l'interprétation, c'est toujours facile de parler une fois que tu connais les résultats. Voilà, mais le fait à un moment donné, et puis les joueurs pro, ils n'ont pas de coupure. Ils sont tout le temps sur le circuit. C'est extrêmement rare tu vois, Federer, il a arrêté 6 mois parce qu'il était obligé, mais c'est un mal pour un bien. Voilà.
C'est ça, ouais, la grosse coupure, c'est l'intersaison de décembre, quoi.
Oui,
Et encore,
mais
ça passe vite. Ça passe vite.
c'est 3 semaines. Voilà.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais,
Tu fais les fêtes, tu t'entraînes, enfin, t'as pas de très très grosse coupure.
complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Toi, ce serait quoi tes idées pour faire un petit peu bouger les choses au sein des clubs, pour rendre de nouveau le tennis à la mode, finalement, tu vois? Dans la vision club.
Alors, dans la vision club, c'est encore une fois, t'as différents clubs. T'as différents profils. Moi, je suis issu du Var, donc tu vois, c'est un truc tout bête, mais dans le Var, quand tu as un tournoi open, tu as soirée tous les soirs, tu as soit barbecue, tu as soit soupe au pistou, soit pâte au pistou, soit paella, soit couscous, voilà. Tu
Apéro.
as ouais, apéro. Alors, moi, je suis pas très alcool, mais Perrier, San Pellegrino, voilà. Mais tu as aussi le côté où tu as double homme, double femme, double mixte. C'est-à-dire que ça permet au mec qui s'inscrit au tournoi, il fait pas son tour en simple, il a perdu le premier tour et il dégage. Tu vois? Donc, c'est. Alors, moi, j'ai la chance que tu n'as pas. C'est-à-dire, moi, je suis vieux, donc je peux m'inscrire en plus de 35, en plus de 45
Plein de
et en
tapots.
senior.
Ouais.
Donc, moi, je peux faire 3 tournois en un, mais dans le sud, je peux faire 3 tournois et le double mixte et le double homme. C'est-à-dire, je peux faire deux matchs par jour. Voilà. Donc, tu vois, il y a plusieurs années, j'avais posé la question à un juge arbitre sur Paris et je lui avais dit, mais pourquoi vous n'essayez pas de faire plus de tournois doubles? Et le mec me regarde avec de grands yeux, il me dit, mais t'es bête ou quoi? Déjà, c'est compliqué de trouver une solution pour 2 mecs en tournoi, t'imagines 4. Et alors là, il y a un sport qui commence à monter, c'est le paddle. Et je crois qu'on joue à 4. Donc ils ont trouvé la solution au paddle, mais ils ne l'ont pas trouvé au tennis. Voilà, et moi, j'adore le double. Et je pense que le double, c'est hyper ludique, c'est hyper convivial. Tu vois, bon, par exemple, pour une petite fille qui va jouer avec sa copine, c'est hyper sympa. À part qu'aller à un match officiel contre une gamine, elle va peut-être moins bien le vivre. Tu vois, et je pense que double, c'est une solution. Après, tu as des clubs qui marchent très très bien. Voilà, moi, je suis Azur, le club fait quand même partie des meilleurs clubs français. Tu as le directeur sportif qui fait beaucoup de communication, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et tu te rends compte qu'à l'heure actuelle, Bah, c'est la société, quoi. C'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux, c'est communiquer, c'est le faire savoir, et ça marche. Voilà. Après, c'est clair que si tu es au fin fond de la Creuse, bah, ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà. Tu pourras faire les réseaux sociaux, les machins nuls, parce que tu n'as pas la même densité de population. Moi, j'ai la chance d'être dans le quartier, le département où je crois que tu as le plus de licenciés. Donc, donc tu ne peux pas comparer un club du 92
Ah
à
oui,
tu vois,
capable.
c'est pas évident, quoi.
Mmh.
C'est pas du tout évident. Mais je pense que voilà, le double, c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est très important d'avoir un restaurant ou alors un snack pour que les gens puissent avoir un véritable lieu de vie. C'est-à-dire que la maman ou alors le papa qui amène son enfant le samedi matin au cours de tennis, ben, s'il y a le bar, alors tu vas me dire qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué en ce moment, mais souhaitons que ça passe, mais qu'il puisse passer un moment agréable. Voilà, je pense qu'on devrait beaucoup s'inspirer tu vois, des grands hôtels. C'est-à-dire que les gens trouvent tous ceux dont ils ont besoin. Voilà, et moi je connais des petits clubs. Il y a un petit club dans le Var que j'adore, c'est le Canet des Morts. Ils sont hyper accueillants. Moi j'ai un copain qui a son propre club aussi dans le Var qui s'appelle le Tennis Club Saint-Charles. Donc je fais un coucou à Max. C'est des clubs où tu as envie de venir, où tu as envie de consommer. Alors Max, il a eu la particularité, il avait 5 courts de tennis et il a décidé maintenant, il y a 2 ans, de sacrifier un terrain de tennis et d'en faire un terrain de foot.
D'accord.
Donc de 5 contre 5. Et lui, c'est en constat terrain. Donc il me disait, tu vois, bah, les mecs qui font du foot, bah, ils vont plus facilement rester au club. Que le tennisman. Et moi,
D'accord.
je considère que parce que tu as fait le double, bah, tu vas pas te barrer comme ça parce que vous étiez quatre. Alors que quand tu es deux, tu dis bon, ciao, à la prochaine, machin. Alors que quand on est quatre, voilà, je pense que tu as des liens un peu plus forts, tu vois, c'est un peu plus sympa, ludique, convivial. Tu as moins le côté
Individuel.
duel avec je vais te montrer que c'est moi, machin, mais voilà. Moi, je pense que redonner une culture double, ça peut être important.
Ok, super.
Ça peut être important.
Et par exemple, il y a aussi quelque chose d'intéressant à évoquer au sujet des clubs, c'est les partenariats avec les marques de tennis. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Alors, moi, je trouve que les produits sont une chance énorme, c'est-à-dire qu'ils ont des dotations. Ils ont des dotations, alors maintenant, qui sont. Où ils doivent participer un peu, je sais pas, alors ça dépend des marques, mais c'est entre 50 et puis bon, 70 euros. Et pour ça, tu as deux raquettes, tu dois avoir un peu de cordage ou alors une paire de chaussures. Enfin, ça dépend des marques, puisque des fois, ils orientent ton choix sur on veut que tu prennes une bagagerie, un cordage et une raquette. Et tu as d'autres marques qui vont te dire, bah, la bagagerie, on s'en fiche, mais il te faut une paire de chaussures. Voilà. Bref. Et je considère que c'est important qu'on ait ces outils pour pouvoir travailler. Après, c'est un accord en tripartite, c'est-à-dire que tu as le club, le pro shop et enfin le magasin et le prof. Enfin, même quatre, puisque tu as aussi la marque, et que le prof de tennis doit comprendre qu'il doit un peu rendre la monnaie à la marque, c'est-à-dire qu'il doit tout faire pour essayer de montrer à ses élèves les nouveaux modèles, de les orienter, de les conseiller par rapport aux chaussures, parce que tu as beaucoup, beaucoup d'adultes, alors les enfants, je t'en parle pas, mais beaucoup d'adultes qui jouent avec des running ou alors des chaussures qui sont pas tellement adaptées pour bien jouer. Donc je pense qu'on est vraiment là en tant que conseiller. Et je pense qu'on le fait pas suffisamment. Voilà.
D'accord.
Moi, dès que je peux guider un enfant sur la taille de raquette, Alors, j'ai rien contre Decathlon, mais souvent, les gens se servent dans les Decathlons et il n'y a peut-être pas tellement de conseils. Et le gamin arrive avec des raquettes souvent trop grandes. Donc pour l'apprentissage, c'est extrêmement compliqué parce que tu peux dire, tu tiens la raquette en bout de manche parce qu'il va essayer de traîner la raquette par terre. Voilà. On a la chance d'avoir des boutiques de professionnels. Moi, j'ai un copain qui tient la boutique de Tennis Pro à Bois-Colombes. Donc, j'ai fait la pub. Ouais, bon, je suis vraiment désolé. Mais bonjour à Julien et puis sa femme Camille. Mais typiquement, ils sont là pour te vendre, bien sûr, un produit. C'est clair, mais ils sont là en tant que conseillers. Et souvent, ces mecs-là, ils jouent au tennis. Ils sont des fois moniteurs de tennis. Donc, ils sont vraiment très, très bien placés pour te conseiller, quoi. Donc, voilà, c'est essayer de jouer le jeu et que ce soit une spirale bénéfique pour le club, pour le prof, pour la marque et pour le magasin. Tu vois, tu me parlais de comment faire vivre un club. Bah, je sais qu'il y a plein de marques qui essayent de mettre des actions, qui ont des goodies pour que les gamins s'éclatent sur une animation école de tennis, qui peuvent mettre des fois des structures gonflables. Voilà, c'est créer un événement avec la marque, avec le club et que le moniteur, voilà, il soit chef de projet et qu'il mette tout en œuvre voilà, pour que ça se passe bien.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment un circuit en fait, complètement. Ouais. Tu as forcément le magasin, la marque, puis tu as le moniteur bah, qui est finalement, entre guillemets, le premier conseiller pour le joueur.
Oui. Tu vois, moi, je suis équipé par Babola. Et j'ai eu l'idée il y a quelques années, il y a 3 ans et demi, 4 ans, c'était d'essayer de monter une application qui pouvait centraliser plein d'exercices pour apprendre aux gamins sur terrain blanc, violet, rouge, orange, vert. Et donc au départ, j'ai tapé, je suis allé voir les marques de raquettes parce que par mon expérience avec Fila, ça me semblait évident vraiment d'aller voir les marques et surtout je considérais que moi je représenterais, hein, c'est-à-dire que si demain je sors une application, Stéphane Attard, c'est qu'un moniteur de tennis. Voilà, et puis, encore une fois, je n'ai pas de méthode. Enfin, j'ai ma méthode, mais sur des exercices généraux d'école de tennis, tu vois, c'est voilà. Et Babola m'a fait confiance. En plus, je pense que je suis arrivé à un moment donné où Babola se posait beaucoup de questions sur les juniors, puisque eux, ils appellent les enfants les juniors. Babola, c'est une marque qui a toujours été proche des jeunes. C'est-à-dire que quand tu vois une raquette Babola chez les petits, alors chez les tout petits, donc les raquettes 17-19, tu as le haut du manche qui est noir et le bas du manche qui est jaune ou alors orange. C'est pour que le gamin, il sache qu'il doit poser la main, sa main directrice, s'il est droitier, sa main droite sur la couleur orange et sa main gauche sur la couleur noire. Et après, si tu évolues dans les raquettes, bah, au lieu de faire de manière verticale, ils vont mettre des repères sur le manche de la raquette pour que les gamins ils se repèrent beaucoup plus facilement sur prise de revers ou prise de coup droit ou prise tu vois, pour le service. Donc, ça a toujours été une marque qui a été très très proche de la pédagogie en essayant de dire qu'est-ce qu'on peut apporter à un gamin avec nos raquettes. Donc merci à eux parce qu'ils m'ont fait confiance. Donc on a tourné 100 vidéos en fin 2019, début 2020, qui sont traduites en 5 langues, c'est-à-dire anglais, espagnol, allemand, chinois et italien. Ouais. Et donc ça va être une sortie mondiale. Ils nous ont fait confiance et on a vraiment travaillé main dans la main. Je passe le bonjour à Marion, Antoine, Ludivine. Enfin voilà, ils sont vraiment top et ils essaient de trouver des solutions pour les juniors. et je pense qu'on est arrivé à un moment donné où ils se sont dit, tiens, bah, pourquoi pas, voilà. Et ce qui les a séduits dans mon approche, c'est qu'ils m'ont posé une question, ils m'ont dit, mais c'est une méthode que tu me proposes? J'ai dit, ah, moi, j'ai pas de méthode. Je vous propose des exercices en expliquant l'objectif tactique et en montrant l'exercice, on va montrer pour atteindre cet objectif tactique, qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau technique. Et je n'ai pas de méthode. Et c'est ça, moi, qui les ai séduits. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé avec une vérité. J'aurais dit, vous savez, quand je marque dans une vidéo que le gamin il doit frapper la balle en avançant à la volée, ce n'est pas une méthode. C'est tout simplement la base de la base, quoi. Voilà, donc ils nous ont fait confiance. On a vraiment travaillé la main dans la main. Merci à eux parce que c'était sympa de bosser avec eux. Et là, on va travailler sur l'année 2. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va tourner avec mon Covid. Donc, voilà. Donc, on attend déjà la sortie de l'année 1. Bah, si tu veux, on refera une vidéo pour la sortie
Avec
des vidéos.
plaisir. Avec plaisir.
Et voilà, donc ouais, donc ça, c'était vraiment une expérience de dingue, quoi.
Ah.
Et puisqu'on parle des exercices, etc., je pense aussi, ce qui est important, c'est pour dynamiser, alors peut-être pas pour dynamiser un club, mais tu dois toujours expliquer aux parents que ce que leur enfant travaille. Voilà, donc tu as des clubs qui ont la chance d'avoir des panneaux avec des écrans et c'est digital et c'est moderne et c'est top. Tu peux aussi mettre un paperboard à l'entrée des cours en disant cette semaine-là, bon, on va travailler ça sur tel niveau. Voilà. Il faut que les parents sachent ce que leurs enfants pour justifier on a payé une cotise et ça sert à quoi? Tu vois, et ça peut être peut-être contraignant, mais si tu fais ça, peut-être que tu pourras augmenter les cotises, et si tu augmentes les cotises, peut-être que le club pourra mieux se porter, peut-être que le moniteur pourra être mieux payé, parce que moi, encore une fois, j'ai la chance d'être dans le 92, mais moi, j'ai des potes qui sont en province. C'est très compliqué pour eux. Ils font le même métier que moi. Ils ont le même diplôme que moi. Donc même, tu vois, quand c'est dur, moi, je me dis des fois, j'ai des potes qui gagnent moins que moi et pourtant, ils font le même métier. Ah, donc, et donc, il y a une disparité de paye qui est peut-être pas du simple au doux, mais quand même de gros gros écarts. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet dans la mode?
Ah
Ouais.
oui. Alors donc bah regarde, tu vois,
Là
j'ai
là.
presque fait exprès, tu vois.
Il est magnifique.
Donc écoute, tu vas être mon premier client. Donc, c'est. Je ne sais pas, voilà. Donc, moi, j'ai toujours une sensibilité pour les fringues, bien avant Fila. Fila, ça m'a conforté dans l'idée, avec l'âge, tu sais, on ne s'améliore pas trop. Donc voilà. Et puis, ça a commencé avec, tu sais, le fait de personnaliser chez Nike ID, chez tu vois, des marques comme ça. Et c'est toujours sympa d'avoir un truc que tu ne trouves pas sur, tu vois, sur tout le monde. Et
Complètement.
donc, pendant le premier confinement, enfin, pour moi, le vrai confinement, donc mars, avril, mai, j'ai vraiment essayé voilà, de me dire qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Et l'idée, c'était de décliner des photos mythiques de Borg, de McEnroe, d'Arthur Ashe, en fait, de grands joueurs de tennis, mais pas uniquement de grands joueurs de tennis, mais de symboles de notre sport. C'est-à-dire que Borg, même s'il n'a pas les titres qu'ont Nadal, Federer, Djokovic, c'est le mec qui a démocratisé le tennis. C'est le mec où les jeunes ont pu s'identifier à lui. Les cheveux longs, la barbe, voilà,
C'était un vrai look. un vrai charisme. Enfin, c'était incroyable.
T'avais les Beatles et Rolling Stone et Borg. Voilà. Et par exemple, alors moi, je suis un fou de. Alors moi, je jouais au tennis aussi parce que j'ai vu Yannick Noah jouer et c'était vraiment extraordinaire de voir Noah jouer. Mais donc, tu as Borg, tu as McEnroe, tu as Noah, c'était. Enfin, pour moi, c'était des monstres. Voilà. Et même si c'est clair, tu vois un match Borg-Villas et tu vois un Nadal-Federer, c'est pas le même sport. Mais c'est clair que ça a été une époque charnière où tu passes de l'amateurisme à la professionnalisation, à la démocratisation. Et je pense que ça devait être bon, des années de dingue, quoi.
Ah, de fou,
de dingue.
Ouais.
Et donc, nous, c'est donc de prendre des visuels de ces monstres. Là j'ai deux copains qui m'ont rejoint dans l'aventure, c'est Thomas et Julien, à qui je passe le bonjour aussi. Donc là, je vais passer beaucoup de bonjour. Ils ont vraiment adhéré au projet. Thomas est jeune, donc lui, il a des cheveux par rapport à moi, et surtout il percute vite, il est force de proposition, il n'a pas peur de se confronter au digital, machin. Voilà, donc moi, entre guillemets, j'ai l'idée première et lui a pu concrétiser ce que j'avais dans la tête. Tu vois, ce beau logo, c'est une copine qui nous l'a fait, moi, qui s'appelle Blondie et que j'embrasse aussi. Je suis désolé, mais je profite. Et donc, elle trouvait l'idée super rigolote. Moi, j'ai plein d'idées, à part que par mon parcours, j'ai pas tout le temps les moyens de les mener de A à Z et de croiser des gens comme Landine, comme Thomas, qui disent, mais moi, je sais. Tu vois, c'est un truc de dingue parce que tu vois le truc se réaliser.
Ah, complètement, ouais. Ah, c'est clair, c'est clair.
C'est-à-dire que tu lui dis, ben, il prend cette photo et met ça, et il te le fait, il te l'envoie, et il te le met en plus en situation sur un t-shirt avec un mec. Tu dis, waouh!
Ça prend vie, quoi.
Ça prend vie et c'est génial. Tu vois, c'est comme lorsque j'ai vu la première vidéo. Qu'on a faite pour Babola, tu dis waouh! Tu vois, alors, je ne sais pas si t'es papa,
Non.
Non, bah voilà. Bah, alors, moi, je suis papa de... je te le souhaite. Alors, moi, je suis papa de deux adolescents. C'est comme quand tu vois ton enfant naître. Alors, c'est clair que j'ai. Je ne compare pas mes enfants à mes projets, mais. Mais c'est vrai, c'est là et c'est top, quoi. Voilà.
Super.
Je suis jamais. Enfin, on se fait plusieurs fois, mais tu as bien compris que j'étais vraiment un véritable passionné. Et le fait de faire des trucs que j'aime avec des gens que j'apprécie, ça, ça n'a pas de prix.
Ah oui, c'est un vrai régal. C'est
tu vois, bah, tu connais mon Mickaël parce que pour tout divulguer, c'est ton moniteur tennis, c'est ton entraîneur, alors qu'on ne savait absolument pas vraiment qu'on se connaissait. De travailler avec Mika, c'est extraordinaire.
Ouais,
c'est d'autant plus extraordinaire que quand moi je pars en tournée avec lui, c'est pertinemment que je suis ultra tendu parce qu'on a la responsabilité quand même de 24 000 heures et s'il se passe quoi que ce soit, bah, c'est ta responsabilité. Et donc je suis exécrable. Donc, il me dit juste bonjour, au revoir, ou plutôt bonsoir. Et entre les deux, on parle uniquement le gamin, il joue à quelle heure, machin, bidule. Et voilà, il sait que je suis ultra attendu. Et donc, c'est aussi top de bosser avec des gens qui te connaissent et qui te font confiance et à qui moi, tu fais confiance. Voilà, c'est vraiment génial de pouvoir s'éclater avec des gens et créer. Voilà, c'est ce qui est. Et quand tu donnes un cours de tennis, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le gamin, en septembre, il a tel niveau. Et si, Et si tu mets tout en œuvre, bah, c'est-à-dire qu'en juin, il aura évolué. Et de voir cette évolution, tu vois, c'est génial. Tu vois, pour moi, des fois, quand j'entraîne, je me considère plus comme un artisan que comme un moniteur de tennis. Parce
Ah
que
ouais,
j'essaie
mais comment ça, ouais.
voilà, parce que j'essaie de faire un truc. C'est peut-être prétentieux, je sais pas, mais voilà, c'est top. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire la compète, hein, parce que le gamin, une fois qu'il va réaliser ce que tu lui as appris sur un terrain et qu'il va gagner son match et qu'il te regarde, c'est top parce que toi, tu sais ce qu'il a mis en œuvre pour pouvoir gagner ce match et lui, bah, il te remercie. Maman du regard, il dit merci. Voilà, c'est vraiment génial.
Clair. Bah écoute, merci beaucoup à toi Stéphane, c'était
Bah, je
super
t'en prie.
intéressant pour ce premier
Alors, je crois savoir qui sera la prochaine personne à être interviewée ou pas.
Évidemment, ouais, tu peux déjà l'annoncer d'ailleurs.
Ah, est-ce que tu as eu cette personne?
Alors, pas encore, mais c'est en cours. Mais en tout cas,
Voilà, bah,
ce sera avec un grand
ça.
plaisir.
Ça sera a priori Nathalie Mention, c'est ça?
C'est ça.
Voilà, qui est une copine qui est atypique dans le milieu du tennis, mais dans le bon sens du terme, qui a plusieurs cordes à son arc, qui est monitrice de tennis, qui est sophrologue et qui est préparatrice mentale, puisque maintenant on dit plus écrivain, mais écrivaine, donc je sais pas trop comment dire, et qui a un parcours.
Bah, un grand merci à toi et puis à
Et
bientôt.
puis, si tu veux jouer, invite-moi à Carrière et avec un grand plaisir pour échanger mon les balles. Mais là, je suis très sérieux.
Avec plaisir, avec plaisir, avec grand plaisir, ouais. On va se faire
Eh bien,
ça, ouais.
écoute, oui, non, mais c'est pas. Moi, j'adore jouer au tennis. C'est compliqué de jouer dans les clubs dans lesquels je travaille. Paradoxalement, tu vois, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Ciao!
Ciao, bonne
Salut!
soirée à toi. Salut, ciao, ciao.
Salut!